RTL, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, nous revoilà ensemble dans le meilleur de Confidentiel spécial été sur RTL, 14h30, 15h30, l'heure à laquelle nous partons sur les traces d'une personnalité, retour sur une vie dont finalement on ne connaît que les éclats et les succès, plus rarement les scandales ou les désillusions. La femme dont je vais vous raconter l'histoire ne peut pas se résumer à une seule actrice ou à une sex-symbole des années 60 et 70. La gloire était à portée de main, mais cette Américaine passionnée, femme de conviction, a très tôt choisi de nager à contre-courant au nom de ses idées et au risque de friser parfois la noyade. Le vrai visage de Barbarella, Jane Fonda, dans le meilleur de Confidentiel spécial été, c'est tout de suite sur RTL.
Confidentiel Jane Fonda, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Moi, je crois que c'est le rôle des stars. C'est d'être comme une antenne qui amplifie les voix des gens qui ne sont pas des stars.
Jane Fonda n'a jamais su qui elle était vraiment. Une actrice, une passionnaria pacifiste, une bombe sexuelle portant la combinaison cosmique de Barbarella ou une petite fille à la recherche de son célèbre père. Un peu de tout cela, sans doute, suffisant pour qu'elle devienne la porte-drapeau de toute une génération, une icône qui rêvait de changer le monde. Lady Jane Seymour Fonda, son véritable nom de baptême, est née avant-guerre un 21 décembre, le jour le plus court de l'année, celui du solstice d'hiver. Sur son uniforme d'écolière, il y aura longtemps brodé ce patronyme aristocratique, Lady Fonda. Jane Fonda n'est pourtant pas fille de prince, mais bel et bien celle de l'un des rois d'Hollywood, le très respecté Henry Fonda, acteur puissant, sombre et sans concession.
C'est une certaine génération qui avait peur des émotions, qui ne parlait pas beaucoup avec leurs enfants. Il me manque tellement, mon père.
Pour la petite fille et son frère, Peter Fonda, qui deviendra lui aussi comédien, c'est le début d'une enfance nomade entre les collines sauvages de Californie et la maison de Greenwich, près de New York. Jane Fonda ne parviendra jamais à se débarrasser des démons de ses premières années. Cette tragédie intime et inévitable à laquelle elle assiste dans le huis clos familial. Sa mère, si belle, Frances Ford Seymour, qu'il ne faut jamais déranger. Recluse dans sa chambre à Greenwich, souffrante comme on dit à Jane, mais qui en fait s'enfonce dans la folie. Frances sera placée en maison de repos pour riches dépressifs, puis un jour, laissée sans surveillance, elle se tranchera la gorge. À la mort de sa mère, dont elle n'apprendra les détails que des mois plus tard, Jane Fonda a seulement 12 ans, et c'est comme si le temps s'était déjà écoulé à une allure vertigineuse. Elle grandit sous le regard attentif de son père, un homme austère qui déteste que l'on se plaigne, un acteur renommé. Chaque fois qu'il entrait dans un restaurant, un courant d'énergie semblait confluer vers lui comme un aimant, se souvient Jane Fonda.
I grew up dreaming of being a cowboy and loving the cowboy ways. Pursuing the life of my high-riding heroes, I burned up my childhood days.
Jane Fonda va ainsi courir, en vain, après l'affection de ce père intouchable. C'est une adolescente qui ne s'aime pas. Elle se trouve trop grosse, des joues trop rondes, des fesses trop rebondies. Rien de tout cela n'est exact, mais le miroir de sa chambre devient une obsession. La vérité ne compte pas. Pour une fille qui essaye de plaire, l'important, c'est la façon dont elle se voit, dit-elle. Jane Fonda va alors, très jeune, être emportée par le cycle infernal de l'anorexie et de la boulimie. La hantise de prendre quelques grammes, le regard permanent porté sur son tour de taille, une névrose, son alcoolisme à elle, dira-t-elle, avec laquelle elle va vivre de l'âge de 13 ans, jusqu'à la quarantaine. Durant toutes ces années, tout sera bon pour Jane Fonda pour perdre du poids. Des repas oubliés, des laxatifs, des amphétamines, des pilules coupe-faim. J'étais devenue une experte pour me faire vomir, confiera-t-elle bien plus tard. Jane Fonda réussira le tour de force de cacher son mal à ses proches, à ses deux premiers maris, à ses enfants, aux acteurs, aux actrices et aux metteurs en scène d'Hollywood. Personne ne se doutera que ce corps était à ce point torturé. Personne ne saura jamais rien de sa névrose avant qu'elle-même ne décide, une fois guérie, de la révéler. Elle expliquera en une seule phrase pourquoi elle martyrisait à ce point son corps. C'est toujours aux hommes que je voulais plaire.
Alone, so alone that I could cry. I wanna be wanted alone, watching lovers passing by. I wanna be wanted. When I am kissed, I want his lips to really kiss me. I want to be loved alone. Just my lonely heart knows how I want to be wanted right now. Not tomorrow, but right now. My tears with someone I know I'd love to spend a million years with. Where is this someone somewhere meant for me?
Alone.
Just my lonely heart knows how I wanna be wanted
right now.
Not tomorrow, but right now. I wanna be wanted. I want someone to share my laughter and my tears with.
Confidentiel, Jane Fonda.
Jean-Alphonse Richard. En cette fin des années 50, Jane Fonda est une collégienne qui s'ennuie et rêve aux garçons. Premier flirt au clair de lune à 18 ans, avec un assistant réalisateur à peine plus âgé qu'elle. Une vie partagée entre les études et les voyages. Elle rejoint son père et sa nouvelle épouse, Suzanne Blanchard, une jeune et pétillante brunette, sur les plateaux de tournage, où le retrouve en vacances, comme dans cette villa louée sur la Côte d'Azur à Villefranche. Cet été-là, tout le monde défile chez Henri Fonda, le peintre Picasso, l'armateur grec Aristote Onassis, l'écrivain Ernest Hemingway ou encore Charlie Chaplin. Mais surtout, à Villefranche, Jane Fonda fait une rencontre qui va bousculer son destin. Greta Garbo, la divine, en personne, qui l'invite à se baigner avec elle. En nageant, Garbo lui demande si elle veut devenir actrice. « Je n'ai pas assez de talent », répond impressionnée Jane Fonda. « Je parierais le contraire », réplique Garbo. « Tu es assez jolie pour y arriver ». Jane Fonda est touchée en plein cœur. Personne ne lui a jamais dit qu'elle était belle et qu'elle pourrait être comédienne. Tout au contraire.
Je n'avais jamais entendu personne, et surtout pas mon père, confie-t-elle, que ce métier pouvait vous apporter des satisfactions. Je n'avais jamais associé les mots acteur et joie. Tous ces doutes seront balayés par la brise de cette journée d'été et la silhouette mythique d'une diva d'Hollywood qui se baignait nue dans la Méditerranée.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
hey, hey mambo, mambo italiano, hey hey mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo. You don't wanna tarantella, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà and then hey.
À 20 ans, Jane Fonda est une petite fille riche et insouciante qui prend ses derniers quartiers de liberté avant le grand bond dans sa vie d'adulte. Son père a accepté qu'elle poursuive des études de peinture à Paris, mais elle passe le plus clair de son temps dans les dancing de la capitale, l'éléphant blanc ou Maxim's. Grâce à son nom célèbre, elle retrouve la nuit une bande d'acteurs, Christian Marquand, Marie-Josée Natt. Un soir, elle croise pour la première fois Roger Vadim, qui ne lui plaît pas du tout. Vadim me fit l'impression d'un prédateur. Je me sentis mal à l'aise, moi, petite oie blanche américaine. Aucune suite donc, la vraie rencontre entre le prédateur et sa proie n'aura lieu que dans quelques années. Le hasard a déjà placé Vadim sur la route de Jane Fonda. Il lui fait maintenant rencontrer Lee Strasberg, directeur artistique réputé, venu habiter tout près de la maison familiale de Los Angeles, le temps du tournage de certains Lem Show. Strasberg a été le professeur de toutes les stars d'Hollywood, de James Dean à Al Pacino, en passant par Paul Newman. Il accepte Jane Fonda dans son cours et cet apprentissage va changer sa vie. Chez Strasberg, Jane Fonda se souviendra de cette rencontre célèbre et fugitive. Marilyn Monroe en personne, un foulard sur la tête sans aucun maquillage, perdue dans ses pensées au fond de la salle, sage comme une image. Jane Fonda a 21 ans, comédienne débutante qui fait du théâtre et pose pour des photos de mode. Elle mesure 1m72 pour 54 kilos, se bat pour rester mince en suivant des cours de danse, mais surtout en se bourrant d'amphétamines et en se faisant vomir jusqu'à 8 fois par jour. Un an plus tard, Jane Fonda fait ses vrais premiers pas devant une caméra. Elle interprète une pom-pom girl dans La tête à l'envers avec Anthony Perkins. J'avais 22 ans. J'étais en train de devenir célèbre, je gagnais ma vie et ne dépendais de personne, écrira Jane Fonda. Coup d'essai remarqué au cinéma et un titre de meilleur espoir féminin au théâtre. Du coup, les propositions affluent et certaines arrivent de France. Roger Vadim la veut pour son nouveau film, La Ronde. Mauvais souvenir de cet homme dangereux, c'est un refus.
J'ai dit à mon agent, je ferai jamais un film avec Vadim. Jamais.
Le réalisateur René Clément lui propose, lui, de venir tourner Les Félins avec Alain Delon. Elle accepte.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence. Laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule. Laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie. Le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer. Et de disparaître le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps, le temps.
Confidentiel Jane Fonda, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Jane Fonda, qui n'est pas encore Barbarella, pas encore la dangereuse activiste qui sera fichée par les autorités américaines, mais déjà détentrice d'un nom célèbre. Invité de ce confidentiel Jane Fonda, Antoine Cyr, bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Antoine Cyr, vous êtes l'auteur de Hollywood, la cité des femmes aux éditions Actes Sud, et puis surtout excellent connaisseur du cinéma américain. Vous avez d'ailleurs rencontré Jane Fonda très récemment, au mois d'octobre, lors du festival du film Lumière. Jane Fonda, fille d'acteur, avec ce père qui va l'inspirer et qui est loin d'être n'importe qui, Henry Fonda.
Ah oui, Henry Fonda, c'est un des plus grands acteurs du cinéma américain des années 1930 et 1940. C'est vraiment une personnalité considérable qui règne sur le cinéma américain et qui joue souvent dans des films engagés, comme par exemple Les Raisins de la Colère, le grand film de John Ford sur la Grande Dépression américaine.
Ils n'ont pas forcément de très bons rapports. Jane Fonda et Henry Fonda, c'est compliqué cette relation.
Alors elle est très compliquée, il y a à la fois beaucoup d'admiration et beaucoup d'incompréhension entre les deux. Henry Fonda, c'est un personnage qui a un regard extraordinaire, ce regard va faire des ravages sur les femmes, hein, pas seulement sur le public. Il va se marier 5 fois et son mariage avec Frances, la mère de Jane et de Peter Fonda, va être particulièrement douloureux puisqu'elle va se suicider en 1950. Et donc, la relation entre Henry et ses deux enfants est très difficile. Il est pratiquement incapable de communiquer avec eux, d'exprimer ses sentiments. Et d'ailleurs, dans le film de 1982, La Maison du Lac, où Henry Fonda et Jane Fonda jouent ensemble, c'est le seul film où on les voit ensemble, c'est une véritable mise en abîme de la difficulté du père et de la fille à communiquer.
Est-ce que c'est ça qui explique que Jane Fonda, finalement, a mis du temps à venir au cinéma ?
Tout à fait. Tout ceci fait de Jane Fonda à 20 ans une actrice assez complexée qui admire la facilité avec laquelle son père est devenu acteur, parce que son père c'est vraiment un acteur instinctif. Elle dit il est effortless, il ne fait pas d'efforts, et elle a l'impression qu'elle doit faire des efforts.
Alors, première apparition de Jane Fonda au théâtre, à la télé, un film La Tête à l'envers qui l'a fait connaître. Il y a beaucoup de concurrence à Hollywood. Est-ce qu'elle est vue comme une révélation, une nouvelle pépite de ce cinéma?
Elle n'est pas encore vue comme une nouvelle pépite à ce moment-là. Elle est vue comme un espoir. Elle incarne une nouvelle génération d'actrices plus décomplexées. Il faut voir que le début des années 60, c'est le moment où le code de moralité d'Hollywood, qui imposait aux gens des comportements très stricts et finalement une certaine retenue dans le jeu, c'est vraiment le moment où les codes un peu rigides d'Hollywood sont en train de tomber, et Jane Fonda va tout de suite incarner une des premières actrices qui s'extrait de ces codes.
Dans un instant sur RTL, retour de Confidentiel, Jane Fonda. journée et un bel été avec RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL.
Confidentiel Jane Fonda.
Jean-Alphonse Richard.
Jane Fonda arrive en France pour quelques semaines. Elle va y rester 6 ans.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette.
À Paris, elle a pour amis Simone Signoret et Yves Montand, qui l'initient à la politique, aux idées de gauche, et lui font découvrir le communisme. Jane Fonda y croise aussi pour la deuxième fois cet homme qu'il faut fuir à tout prix, ce Roger Vadim. Il fait partie des invités à son anniversaire. Ce soir-là, il est beau, attirant, discute poliment avec elle toute la soirée.
There was a party, il y avait un soirée, il était là et il n'était pas du tout comme j'attendais, tellement charmant et je suis tombée amoureuse quoi.
Quelques temps plus tard, il est de passage dans le studio de Boulogne-Billancourt où Fonda tourne avec Delon. Jamais le cœur de l'actrice n'avait battu aussi fort, ils ne vont plus se quitter.
I've been loving you too long.
Jane Fonda et Roger Vadim vont rester 8 ans ensemble. L'actrice est captivée par le playboy réalisateur et sera prête à tout pour exaucer ses vœux. Comme ma mère, je pensais qu'il suffisait d'agir en épouse parfaite pour ne pas être quittée, écrira-t-elle. Paris, Saint-Tropez, le monde de la nuit, le jeu et l'alcool pour lui, et pour tous les deux, une débauche de sexe. Vadim amènera dans le lit conjugal des call girls. Nous étions quelquefois 3, parfois plus, se souviendra l'actrice qui organisera quelquefois elle-même ses soirées très libertines, quitte à en tirer bien des années plus tard de l'amertume, le sentiment d'avoir été contrainte d'accepter ces jeux auquel elle n'était pas préparée. J'ai vécu avec Roger Vadim qui, sous prétexte d'amour, m'a poussé à faire des choses qui n'étaient pas dans ma nature, dira-t-elle.
Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Jane Fonda se consacre à Vadim et passe le plus clair de son temps avec lui dans une vieille ferme retapée près de Houdan. Quand le cinéma américain la rattrape, c'est à reculons qu'elle retourne à Hollywood. Vadim l'accompagne. Elle veut se marier. L'union express est célébrée à Las Vegas par un pasteur dans la suite d'un grand hôtel. Fonda se couchera tôt et Vadim passera sa nuit de noces au casino. Dans un an, naîtra une petite fille, Vanessa. Dans 4 ans, ils ne seront plus ensemble. Avant qu'ils ne se quittent, Roger Vadim aura tout de même transformé Jane Fonda en Barbarella, Amazon sexy et intergalactique de l'année 68, personnage incarnant la révolution sexuelle du moment, fantasmagorique et érotique. Jane Fonda sera éternellement Barbarella.
Barbarella psychedella, there's a kind of cockle shell about you.
Barbarella, Barbarella,
dazzle me with rainbow color, fade away the duller shade of living, get me up high, teach me to fly.
Jane Fonda, actrice triomphante et femme de conviction, le meilleur de Confidentiel spécial été, le récit de sa vie continue après les informations RTL. Il est 15h.
Confidentiel Jane Fonda, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
En cette fin des années 60, Jane Fonda s'interroge. « Ma vie était une fête sans fin, mais à laquelle je n'avais pas envie de participer », dira-t-elle. « J'avais l'impression que quelque chose d'important se déroulait ailleurs. » Durant sa grossesse, en France, elle a beaucoup regardé la télé, clouée dans un lit à cause d'un risque de fausse couche. Elle a découvert alors les images de la guerre au Vietnam conduite par les États-Unis, les bombardements, les civils morts sous les obus. Plus rien désormais ne sera comme avant pour Jane Fonda. Avec la tragédie du Vietnam, c'est comme si elle se réveillait après une longue inertie. Le cinéma, les tournages, l'argent, tout cela lui apparaît soudain bien futile. Elle veut rattraper le temps perdu. Jane Fonda va ainsi devenir, pour plusieurs années, la messagère des laissés pour compte. Les Noirs, les Indiens, les femmes abusées. Elle qui avait été sacrée Miss Armée en 1962, endosse l'uniforme des anti-guerres. Figure de proue des opposants à l'engagement américain au Vietnam. Une croisade pacifiste, au risque que cette aventure ne vienne briser sa carrière et son image. Jane Fonda court l'Amérique, son propre pays dont elle ne connaît rien ni personne. Elle s'agite, prêche la bonne parole, rencontre partout les vétérans du Vietnam, recueille leurs témoignages, monte des spectacles et patronne des associations. La silhouette est toujours celle de Barbarella, mais les cheveux sont courts et le regard n'a jamais été aussi farouche. C'est ce visage qui est mitraillé par les photographes à la sortie de la prison de Cuyahoga, où elle a été enfermée pendant 10 heures. Elle est menottée et lève le poing comme les Noirs des Black Panthers. Jane Fonda a officiellement été arrêtée pour détention de stupéfiants, des amphétamines, mais c'est en fait le FBI qui a précipité son interpellation. L'actrice découvrira des années plus tard qu'un dossier de 20 000 pages, nom de code Gamma Series, avait été constitué sur elle. Elle apprendra que les retranscriptions de ses communications téléphoniques étaient directement adressées au président Nixon en personne. Un agent du FBI dira, en la comparant au numéro 1 soviétique, Brejnev et Fonda ont bénéficié de la même attention. Le FBI et la CIA vont les pieds de longues années. Jane Fonda vit alors avec le scénariste Tom Hayden, qui deviendra plus tard sénateur démocrate. Avec lui, elle forme un couple de pacifistes qui partagent de solides convictions de gauche et une vie de bohème hippie dans une bicoque sans eau ni électricité. Bientôt naîtra leur fils Troy. C'est Hayden qui encourage Jane Fonda à se rendre au Vietnam en 1972, le voyage du scandale. Jane Fonda part au Vietnam pour y rencontrer des prisonniers américains. Hanoï, en guerre contre Washington, a déroulé le tapis rouge à cette célébrité américaine. La publicité est inespérée. Une seule photo va ainsi faire le tour du monde et embraser les imaginations. On y voit Jane Fonda portant un casque et assise derrière un canon anti-aérien qui semble pointer vers l'Amérique. La publication du cliché fait trembler tout un pays. Au retour de l'actrice, des sénateurs américains essaieront sans résultat de la traîner en justice pour trahison. Jane Fonda accusera le coup. Elle s'en voudra d'avoir été sans doute piégée par la propagande des Vietnamiens. « J'ai commis une erreur. J'ai payé
Et je continue de payer le prix fort, reconnaît-elle. Je suis la fille de Henri Fonda, jeune femme privilégiée qui semble tirer la langue à la nation qui lui a offert ses privilèges. Jane Fonda insiste, c'est une erreur qui a pesé lourd sur ma conscience et qui pèsera toujours. Jane Fonda va continuer à prendre son bâton de pèlerin de la paix. Elle ne retrouvera le cinéma que quand la guerre au Vietnam sera terminée. L'Amérique et Hollywood la dévisageront alors avec des regards contraires. Dangereuse activiste pour les uns, le Ku Klux Klan la menacera, ou militante courageuse pour d'autres.
Et bel été sur RTL. Confidentiel Jane Fonda, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Jane Fonda, star et militante, actrice et combattante de la paix, à gauche toute pour cette Américaine libérée. Antoine Cyr, vous nous accompagnez dans ce confidentiel Jane Fonda. Un mot tout d'abord sur cette longue parenthèse française, cette vie à Paris avec Roger Vadim. Quel magnifique couple!
C'est un magnifique couple qui arrive après le couple Bardot. Vadim, c'est quand même le réalisateur qui a révélé Bardot dans « Et Dieu créa la femme ». On peut dire qu'il jette son dévolu sur Jane Fonda. Il lui fait, il est vrai, tout le charme nécessaire. Et au bout de 3 mois à Paris, elle emménage avec Vadim. Il l'embarque dans des aventures sexuelles qui sont loin de l'image de la femme américaine classique. Et donc, on va avoir une espèce de difficulté dans cette relation qui va s'installer dès le départ.
Est-ce que c'est à cause de tout ça, finalement, qu'elle va s'engager dans cette croisade contre la guerre au Vietnam ?
C'est exactement ça. En fait, en 68, Jane Fonda vient de tourner dans Barbarella. Mmh. Ça se passe pas bien avec Vadim. Elle a une impression de futilité et un peu de dégoût dans la relation que Vadim lui impose. Elle voit l'assassinat du pasteur Martin Luther King. Elle voit les événements de mai 68. Et là, il va se passer un événement très particulier, qui est qu'elle va rencontrer à Paris des GIs basés en Allemagne qui sont à la tête du mouvement de résistance intérieure des GIs contre la guerre du Vietnam. Et ça va être une sorte de déclic. Tout ça va lui donner envie de retourner vers les États-Unis. Et là, elle va s'embarquer, elle va rencontrer de plus en plus de soldats qui protestent contre la guerre du Vietnam. Elle va aussi s'embarquer dans la cause des droits civiques des Noirs, aux côtés des Indiens d'Amérique. Et donc, petit à petit, elle va être aspirée par tous ces mouvements, par toute cette vibration de l'Amérique de la fin des années 60 et du début des années 70, et où on va retrouver Jane Fonda dans toutes les luttes de l'Amérique.
Est-ce que cette croisade a nui à sa carrière ?
Non, cette croisade n'a pas vraiment nui à sa carrière, parce qu'on peut quand même dire que dans les années 70, Jane Fonda fait les films les plus importants. C'est On achève bien les chevaux, c'est Clout, pour lequel elle va avoir l'Oscar, c'est Le retour, c'est toute une série de films qui ont un message politique et qui sont des films très important dans l'histoire du cinéma américain. Donc ça ne va pas nuire énormément à sa carrière, parce qu'on n'est plus dans la période du McCarthyisme et que Hollywood est assez anti-guerre du Vietnam. Mais par contre, ça va nuire à sa conscience. Elle se rend compte qu'elle a franchi un cran trop loin en se laissant photographier sur un canon ennemi. Elle va vivre ça très douloureusement. Ça va mal se passer aussi avec son père, qui n'a pas apprécié ce geste. Et finalement, elle ne va pas cesser d'exprimer des regrets pour ce geste.
Dans un instant sur RTL, retour de Confidentiel, Jane Fonda. Confidentiel Jane Fonda, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
En 1978, au début du tournage du Syndrome chinois, Jane Fonda se casse un pied. Ça n'est pas la première fois. 6 ans plus tôt, elle avait fait le voyage à Hanoï avec une fracture identique. C'est son anorexie boulimique qui a fragilisé ses os. Pour se soigner, on lui conseille alors une nouvelle discipline, mi-danse, mi-gymnastique, mi-stretching, qui ne s'appelle pas encore aérobic. Au grand désarroi de ceux qui lui prédisaient une carrière politique, Jane Fonda se jette à corps perdu dans cette pratique. Non seulement ce sport soigne son corps, mais va la guérir définitivement de sa névrose, la peur panique de prendre du poids. C'est ainsi que Jane deviendra, contre toute attente, à plus de 40 ans, la grande prêtresse de l'aérobic.
Stand with your feet a little more than hip distance apart, stomach tight, buttock pulled in, pull out of your torso.
Elle ouvrira une école et publiera un guide, Ma méthode, et des vidéos qui lui rapporteront des millions de dollars. Jane Fonda, enfin réconciliée avec son physique, va désormais de plus en plus s'éloigner du cinéma. Le déclic s'est produit sur le tournage de La Maison du Lac. Jane Fonda y réalise son rêve, jouer avec son propre père que la maladie est en train d'emporter. Elle y croise Catherine Hepburn
et découvre une star vieillissante, toujours apeurée malgré les récompenses et les années, de ne pas être en haut de l'affiche. Jane Fonda sera troublée par ce réflexe et commencera alors à prendre ses distances avec ce métier d'acteur, monde d'illusions et d'apparences dont son propre père se méfiait. J'ai essayé de ne jamais m'habituer aux à côté de ce métier, écrit-elle, parce que je savais qu'il ne durerait pas forcément toujours. La Maison du Lac obtiendra 3 Oscars. Henry Fonda mourra 5 mois plus tard. Passé la quarantaine, le temps ne s'écoule plus de la même manière pour Jane Fonda. Après 17 ans passés avec Tom Hayden, elle divorce. Elle avait cru à tort qu'après Vadim, il serait l'homme de sa vie. Comme elle pensera que le suivant, le milliardaire des médias Ted Turner, patron de CNN, ne la quittera jamais. Elle se trompera à nouveau. Un mois après le mariage, Jane Fonda découvre que son mari la trompe. Les 7 années suivantes, Turner rentrera dans le rang, une vie amoureuse dans un ranch somptueux du Montana, puis la trompera à nouveau. La séparation aura lieu sans un mot. « Il m'a déposé en avion à Atlanta. Tandis que je repartais, une autre femme, sous le hangar, montée dans son jet privé, la place était toute chaude », écrit-elle. Jane Fonda a rêvé d'être la femme d'un seul homme. Pour plaire, elle avait fait modifier ses seins avec le sentiment qu'elle commettait une erreur. Après son 3e divorce, elle fera enlever ses implants. Elle ne sera plus jamais la reine de l'aérobic ni Barbarella, mais elle s'en moque. « Chaque ride de ma peau, chaque cicatrice de mon cœur est maintenant mienne », dit-elle. « J'assume toute imperfection ». Jane Fonda ajoute « Il m'a fallu 60 ans pour apprendre à dire non. Je disais oui à n'importe quel projet. J'ai eu des rôles que je n'aimais pas et je me suis trop laissé faire. Je ne savais pas me défendre si j'avais su. Aujourd'hui, par contre, je dis non et puis je m'en vais. » Jane Fonda est devenue une amoureuse qui ne fait plus l'amour. Passé les 80 ans, elle estime que cela ne sert plus à grand-chose. « J'ai connu mon lot d'aventures, d'amour, de romances, mais je n'ai plus l'énergie ni l'envie de consacrer une grande partie de mon temps à un homme », confie-t-elle. Elle ajoute « Je me suis donné à 100% en amour, même si j'ai eu souvent le sentiment d'être utilisée. » Jane Fonda n'a pourtant pas de regrets, sauf peut-être celui de ne jamais avoir partagé son lit avec Robert Redford, le seul acteur qu'elle a embrassé en frissonnant. Jane Fonda ne se plaint pas. Toute petite, son père lui avait enseigné de ne jamais verser aucune larme.
I can see clearly now the rain is gone. Thank you.
Jen Fonda, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Jen Fonda, une longue vie de combats et de surprises, souvent là où l'on ne l'attend pas. Toujours avec nous dans ce studio RTL, Antoine Cyr, spécialiste averti du cinéma américain, qui nous accompagne dans ce confidentiel Jen Fonda. Jen Fonda, qui n'est pas un paradoxe près, est celui de l'aérobic, on l'a raconté dans ce confidentiel, n'est pas des moindres. Pourquoi s'est-elle lancée à corps perdu dans cette démonstration physique étonnante ?
Alors, Jen Fonda, c'est quelqu'un qui a toujours cru au travail. Elle est un peu complexée par rapport à son père, qui est quelqu'un qui a réussi sans effort. Elle n'a pas confiance dans son talent. En réalité, bien sûr, elle a un grand talent, mais elle ressent vraiment la nécessité de toujours travailler. Et assez vite, elle se rend compte qu'il faut se tenir en forme. On est en plus dans l'école des acteurs américains qui savent toujours danser, qui savent faire plein de choses et qui s'entraînent en permanence à ces choses. Et à partir de là, elle va se maintenir en forme en rentrant dans une espèce de troupe d'aérobic avant l'heure. C'est elle qui va devenir la patronne de la troupe. Et donc, elle va devenir une espèce de star de l'aérobic. Mais, je dirais que son engagement dans l'aérobic, c'est d'une certaine manière aussi un engagement politique. Parce qu'elle est une star, elle appartient à un monde, le cinéma, où dès qu'une femme a plus de 40 ans, on commence à la regarder avec moins d'attention. Et elle porte un message très fort, d'abord pour l'Amérique et ensuite pour le monde entier, qui est de dire aux femmes, écoutez, arrêtez, vous avez 40 ans, vous êtes belle, vous pouvez faire du sport, vous pouvez vous maintenir en forme. Finalement, tout ce mouvement où les gens de 50, de 60 ans se disent on peut être beau, c'est quelque chose qu'on doit très largement à Jen Fonda.
Est-ce que Jen Fonda a marqué l'histoire du cinéma, de la politique ou bien du féminisme ?
Je crois que Jen Fonda, c'est une très belle histoire américaine. Jen Fonda a fait des grands films, elle a sa place dans l'histoire du cinéma, elle a sa place dans le mouvement des idées et elle a sa place dans la culture populaire et dans la façon dont son comportement va influencer les gens. Cette trilogie cinéma, politique et vie de tous les jours, c'est ce qui fait de quelqu'un de très important.
Que représente-t-elle aujourd'hui, Jen Fonda, aux États-Unis ? Elle compte toujours ?
Alors, Jen Fonda, elle compte encore. D'abord, il faut se rendre compte, moi j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois, c'est quelqu'un qui est dans une très grande forme physique, qui est dans une très grande forme intellectuelle. Elle est drôle, attentive, hein. Elle est évidemment présente dans la vie de l'Amérique, on la voit facilement à la télévision, et puis elle joue dans une série, dans Grace and Frankie, qui est une série très populaire.
Aucune amertume, on a l'impression, aucun regret pour Jen Fonda.
Non, je pense que Jen Fonda, c'est quelqu'un qui a eu une vie assez extraordinaire. Elle est quand même bénie des dieux. Elle est la fille d'Henry Fonda. Elle a eu la chance d'être une des vraies personnes embarquées dans cette histoire trépidante de l'Amérique et du cinéma, en y laissant pas mal de plumes sur le plan personnel, mais en vivant quand même aussi des choses extraordinaires.
Merci Antoine Cyr pour votre précieux éclairage sur Jen Fonda, actrice, révolutionnaire, féministe et surtout femme libre. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Philippe Duval à la réalisation. Demain, même heure, un autre destin et une autre légende américaine, la vie secrète de Clint Eastwood. Pour l'heure, on va retrouver Laurent Ruquier et c'est évidemment le meilleur des grosses têtes sur RTL.